Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Une émission consacrée aujourd'hui au Rwanda, quelques jours après le voyage sur place du président Nicolas Sarkozy. Un voyage censé tourner la page des querelles qui ont empoisonné les relations diplomatiques entre les deux pays depuis 1994. 1994, l'année du génocide. En 4 mois, entre 800 000 et 1 million de Tutsis rwandais sont massacrés. Un génocide qui se déroule au cœur d'une région qui sera de longues années à feu et à sang. Entre 1994 et 2000, ce sont près de 4 millions de personnes qui perdront la vie dans l'Afrique des Grands Lacs. Nous recevons aujourd'hui André Guichawa, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
André Guichawa, vous êtes l'auteur d'un livre impressionnant qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Le titre « Rwanda, de la guerre au génocide, les politiques criminelles au Rwanda, 1990-1994 ». Livre impressionnant par sa taille, d'abord plus de 600 pages, et ce n'est pas tout puisqu'il renvoie à plus de 2000 pages d'annexes disponibles sur un site internet à l'adresse www.rwandadelaguerreaugénocide.fr. Impressionnant par son ambition, ensuite, parce qu'il n'entend pas être un ouvrage de synthèse sur le génocide en lui-même, mais qu'il entend replacer le génocide rwandais dans un contexte historique et politique large, qui permet de jeter un nouveau regard sur ces événements atroces. Mais ce livre, André Guichawa, c'est aussi le livre d'un témoin, puisque vous étiez sur place, à Kigali, au début du mois d'avril 1994, à l'heure des premiers massacres. Ces heures passées à Kigali, début avril 1994, ces heures, ces quelques jours, vous dites qu'ils ont changé votre vie.
Oui, tout simplement. Bon, ils ont changé ma vie parce que j'ai été très ébranlé. Bon, comme tout un chacun. Hein. Une chose, c'est d'anticiper, une chose, c'est d'en parler, une chose, c'est d'imaginer ce que peuvent être des événements effroyables et inédits. Autre chose, c'est d'assister à un environnement qui bascule, c'est-à-dire où toutes les règles du jeu disparaissent, où ce que l'on imaginait être des protections ne fonctionne plus, et de devoir, je dirais, des gens tout à fait normaux la veille, se transformer dans un environnement de violence, de haine, de voilà. Le deuxième élément, c'est parce que j'ai à l'époque récupéré des enfants et que bon bah voilà, ça modifie profondément l'existence. Le dernier élément, c'est que étant témoin et on était quand même très peu nombreux hein, présents à cette époque puisque l'environnement n'était pas très propice, je me suis retrouvé projeté dans les débats sur la création du tribunal pénal et deux, dès sa création comme témoin et expert, et que ce n'est pas fini.
Voilà, témoin oculaire donc des premiers massacres, mais aussi témoin dans cet autre sens que vous venez de signaler, témoin expert, donc dans une trentaine de procédures, témoin devant des commissions d'enquête, des procès qui se sont tenus à Bruxelles ou ailleurs, et surtout donc, vous le disiez, témoin expert auprès du tribunal pénal international sur le Rwanda, qui est donc basé à Arusha en Tanzanie et qui se dirige doucement vers la fin de ses travaux, qui devraient être terminés pour les dernières procédures en appel à l'horizon 2012. Alors pourquoi ce livre, André Guichawa, 15 ans après les faits, vous dites qu'il est temps, est venu le temps de poser, non pas la vérité avec un grand V, mais des éléments de vérité sur le génocide rwandais?
Oui, le paradoxe, c'est que un travail impressionnant, absolument impressionnant, a été fait par les coopérations internationales, par les médias, par des universitaires, puis après tout un tas de formes, documentaires, etc., pour documenter ces événements. Et paradoxalement, alors qu'on a l'impression de disposer d'éléments de vérité tangibles, les passions rwandaises ne cessent de prévaloir, et la guerre civile, d'une certaine façon, se prolonge au niveau idéologique, au niveau politique, comme si tout ce qui avait été dit et écrit ne pesait pas. Alors de deux choses l'une, soit c'est faux, soit ça ne suffit pas, et je le comprends parfaitement, c'est pas en écrivant des éléments de vérité qu'on atténue des traumatismes, il faut une génération ou plus, ça je le comprends parfaitement, mais en même temps, ce qui m'ennuie, c'est que il existe ce que je dirais une sorte de marché noir de l'information sur des événements capitaux de cette époque, de ces événements, qui font que tout trouve sa place. Bon, et je pense que c'est certainement là que le bât blesse, c'est-à-dire que plus rien n'est crédible. Peut-être je vais utiliser un mot, je vais essayer de pas être maladroit, mais on a imposé un devoir de vérité. Autoritairement, politiquement, comme une sorte de bien-pensée, et je pense que on devrait plutôt dire qu'il y a un devoir de vérité, et que ce devoir de vérité doit être assumé par les acteurs directs et d'abord par les populations. Et dans le cadre dans lequel se fait le devoir, où s'exerce le devoir de vérité, il ne répond pas à l'heure actuelle aux attentes effectives des populations et des acteurs.
On en voit la trace dans la presse ces derniers jours, André Guichaoua, presse qui est pleine d'articles sur des polémiques avec des grands P, encore deux pages dans le quotidien Le Monde en milieu de semaine, autour des circonstances de l'attentat contre le président Habyarimana, le président rwandais, donc assassiné, son avion abattu à Kigali, à la veille des premiers massacres. Et donc le journaliste qui réalise ces deux pages dans le quotidien Le Monde ne peut se contenter que de recenser les différentes hypothèses sur la place, 15 ans après les faits, et est obligé d'exposer les unes après les autres les différentes versions, les différentes intoxications, il faut bien dire ce qui est, André Guichaoua, sans pouvoir choisir ou décider ou établir une vérité.
Oui, c'est un des éléments clés, non pas parce que l'attentat contre l'avion présidentiel peut être considéré comme la cause du génocide, et ça je ne pense pas que ce soit le facteur déclenchant. Il n'empêche que c'est un élément symbolique fort, c'est l'assassinat d'un chef d'État plus du voisin, peut-être par hasard, mais en tout cas ça a déstabilisé aussi le Burundi. Et le plus extraordinaire, c'est cette solidarité, je dirais, nationale et internationale, pour ne pas avancer sur ce dossier. Et à ce sujet, moi je dirais simplement une chose, puisque la France est, à la limite on ne choisit pas, mais enfin puisque c'est le seul pays qui a engagé à l'heure actuelle une procédure sur ce dossier, on peut
rappelons que le pilote et le copilote étaient français,
voilà,
donc les familles ont porté plainte.
Trois membres de l'avion, enfin les techniciens et pilotes étaient français, une procédure a été enclenchée en France. On peut effectivement penser que la France n'est pas le meilleur pays pour avoir engagé une telle procédure. On peut aussi penser que l'ordonnance du juge Bruguière, qui a été en charge de ce dossier et qui a délivré un certain nombre de mandats d'arrêt, peut être malheureuse dans son contenu et sa rédaction. Je pense qu'il y a dans cette ordonnance des éléments qui relèvent plus de la supputation que des faits. Or, au niveau où il se plaçait, c'était au juge, après, dans un deuxième temps, de se prononcer sur l'intentionnalité des criminels indiqués. Mais bon, voilà. En tout cas, cette procédure existe en France. Et ce qui me semble extraordinaire, c'est que depuis maintenant quelques mois, le prix de la réconciliation future, hein, qui est en cours, en tout cas avec les nouvelles relations diplomatiques établies avec le Rwanda, semble devoir se faire sur le dos de cette procédure. Or, je pense que, après avoir dit pendant tant d'années que l'instruction à charge n'était pas suffisante, qu'on a la possibilité désormais, je dirais, d'entrer dans une instruction à décharge, puisque les juges ont été renouvelés, eh bien faisons. Mais la seule chose que l'on entend aujourd'hui, de toutes parts, que ce soit dans les médias, que ce soit au niveau des autorités, c'est de dire on clôt le dossier. Comme si on allait sortir de cette affaire en clôturant. Je trouve que c'est encore pire, je dirais, de laisser ce point d'interrogation, parce que on accrédite une sorte d'histoire conspirationniste qui va laisser des séquelles, c'est tout. Il n'y aura pas de vrai débat ni d'issue.
Alors André Guichaoua, on sait bien que comparaison n'est pas raison. Il faut distinguer, c'est l'un de vos partis pris, distinguer l'histoire de la Shoah et l'histoire du génocide rwandais. Et d'abord, quant au contexte, le Rwanda est plongé juste avant le génocide, depuis plusieurs années, dans une guerre civile violente entre le FPR, le mouvement Tutsi en exil, et le pouvoir du président Habyarimana, lui-même fortement contesté à l'intérieur par l'opposition. Il n'y a donc pas symétrie avec la Shoah, pas un pouvoir monolithique totalitaire qui déciderait d'un génocide, mais au contraire, une scène politique au Rwanda qui éclate, une transition démocratique ratée qui lance les différentes forces politiques rwandaises dans une course acharnée pour le pouvoir. Là, j'essaie de résumer à très grands traits votre livre. Et c'est cette compétition acharnée qui va radicaliser les opinions et les stratégies et ouvrir la voie au génocide. C'est votre lecture des événements, André Guichawa ?
Oui, je trouve votre explication là tout à fait adéquate. C'est vrai que j'ai toujours été étonné de voir cette analogie, bon, comme si de l'histoire de la Shoah, un certain nombre de critères devaient être projetés pour attester de la monstruosité, de la gravité du génocide des Rwandais Tutsis. Moi, il m'a semblé que... Je dirais la réalité de ce qui s'est passé au Rwanda se suffit à elle-même. Elle est incontournable, elle est reconnue. Bon, par contre, il faut la comprendre. Alors là encore, c'est un deuxième élément. Pour retrouver un certain nombre de canons, on voit dans la plupart des travaux, des recherches, le besoin d'aller reprendre dans l'histoire des antécédents de la Shoah les prémices, les caractéristiques, les étapes, une conférence de Wannsee. Enfin bon, voilà, il faut qu'on ait reconstitué...
C'est la conférence où a été décidée la solution finale.
Pardon, excusez-moi, voilà. Oui, où a été décidée la solution finale. Et ces éléments-là ont été recherchés. Comme s'il y avait une sorte de nécessité historique
pour de retrouver les mêmes formes historiques,
voilà,
en fait,
pour avoir un projet génocidaire, une planification génocidaire. Bon, or, et alors ça c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, mais là je le comprends parfaitement, c'est la manière dont l'histoire a été écrite. L'histoire a été écrite essentiellement au travers des jugements et de ce qui s'est passé juste après. Bon, c'est-à-dire sur la base de nécessité en termes de justice. Et sur la base des récits des rescapés. Bon, cette histoire-là s'est progressivement imposée comme étant l'unique entrée. Et en faisant l'impasse, mais je comprends, enfin c'est un problème de priorité. La nécessité, c'était de juger, la nécessité, c'était d'identifier les victimes, etc., les souffrances. Bon, mais en même temps, il y a tout un travail de compréhension de la genèse de ce génocide dont on ne pouvait pas faire l'économie. Bon, or, un tribunal, quand il écrit l'histoire, il l'écrit par rapport à ses nécessités. Ses nécessités, c'est de rendre des jugements. Bon, rendre des jugements ne suppose pas d'exhiber la totalité des preuves, ni de faire l'histoire d'eux. On a des éléments forts de cette histoire, mais le reste, ce n'est pas sa tâche. Et là, il y a eu une sorte d'impasse, c'est-à-dire que bon, la fonction du tribunal était de poursuivre l'ensemble des crimes commis, crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, au nom de la priorité parfaitement justifié des crimes de génocide. On en est venu au nom, du fait de, je dirais, des pressions du vainqueur, à occulter l'autre volet, c'est-à-dire la réalité d'une guerre, des enjeux de pouvoir et autres. Et finalement, on se retrouve avec un génocide qui, je dirais, risque d'apparaître un peu comme suspendu, puisqu'une partie de l'écran est restée noire. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, ça n'enlève rien, ni à la monstruosité des faits, je dirais au contraire, puisque là, je suis pas le seul, mais disons, on arrive à mettre des noms, on arrive à mettre des moments, c'est-à-dire des processus qui ont débouché sur des décisions et sur des motivations de ces décisions. C'est-à-dire qu'on n'est plus face à une sorte de projet génocidaire intemporel, on est sur des décisions d'individus normaux, entre guillemets, mais qui prennent aussi, dans un contexte déterminé, des décisions absolument effroyables et qui sont caractéristiques d'un vrai génocide et d'une politique d'État de génocide.
Alors, ce qui est très impressionnant, André Guichaoua, je disais que vous vouliez poser des éléments de vérité, c'est donc que cet ouvrage repose sur ce site internet, enfin, est le prolongement de ce site internet où sont reproduits, donc, en annexe des documents et notamment, par exemple, des reproductions, par scan, hein, des agendas de certains des ministres du gouvernement intérimaire qui est donc arrivé au pouvoir juste après l'assassinat du président Habyarimana, qui est le gouvernement qui a mené le génocide. Vous avez retrouvé des agendas de ces ministres que vous reproduisez in extenso et donc vous reconstituez la vie politique dans ce qu'elle est à ce moment-là au Rwanda, du début de l'année 1994 jusqu'à la fin juillet, pour voir justement, et c'est une expression que vous utilisez, quel est le gouvernement du génocide. Vous savez qu'il y a des thèses qui se rapprochent d'une forme de négationnisme, qui disent que voilà, le président avait été assassiné, le pouvoir s'est écroulé, et que le génocide se serait en fait produit quasiment par combustion spontanée, et qu'on aurait tué son voisin, et qu'il n'y aurait pas d'acte volontaire. Vous utilisez l'expression d'un gouvernement du génocide.
Oui, parce que le génocide n'était certes pas un programme en soi, je dirais intemporel, hein, il n'était pas écrit dans les gènes ni d'une ethnie ni dans l'histoire. Il n'empêche que un certain nombre de prémices existaient, que la conjonction d'une série d'événements, on poussait des éléments extrémistes sur cette politique, et parmi ces éléments figurait le fait qu'ils avaient commis un certain nombre d'assassinats, etc., et qu'il leur fallait, je dirais, entraîner l'ensemble dans une sorte de politique de terre brûlée. Bon, mais une fois qu'ils ont mis en place ce gouvernement, le génocide est véritablement devenu une politique d'État. Et le critère d'évaluation des fonctionnaires, les renouvellements des fonctionnaires se jouaient sur leur capacité à mobiliser et à tuer. Et les populations ont été, je dirais, soumises à ce régime, et c'était un des critères, c'était tuer ou ne pas l'être soi-même.
Alors venons-en, André Guichaoua, à la question de la justice. Nous avons évoqué à plusieurs reprises lors de cette conversation le TPIR, le Tribunal pénal international sur le Rwanda, donc qui travaille à Arusha en Tanzanie, qui travaille depuis 15 ans puisqu'il a été institué à la fin de l'année 1994, donc qui se dirige donc vers la clôture de ses travaux d'ici environ 2 ans. Un bilan, vous qui avez été longtemps expert témoin pour ce tribunal. D'abord, bilan chiffré, 90 personnes ont été poursuivies en 15 ans. Certaines personnes poursuivies sont encore en fuite, elles n'ont pas toutes comparu. Quel est le bilan que vous faites de l'activité du Tribunal pénal international sur le Rwanda?
Le bilan est impressionnant. Voilà. Bon. C'est-à-dire que c'est l'instance qui a accumulé des informations, c'est l'instance qui a eu les moyens d'arrêter. Alors, on va commencer immédiatement à dire qu'il n'a pas arrêté qui il a voulu, qu'il est parti d'abord sur des listes de 100, 300, 400 pour finalement avoir un bilan relativement ténu. Moi, je dirais simplement que par rapport à ce que l'on pourrait appeler les grands, hein, ceux qui peuvent être considérés comme ceux qui ont mis en œuvre le génocide, l'essentiel a été jugé.
Bon. Notamment, il faut qu'on cite un nom, hein, le colonel Bagosora, qu'on considère être le cerveau du génocide rwandais.
Oui, et alors justement, là commencent les difficultés, puisque la chambre qui l'a jugé, bon, on attend encore la décision de la chambre d'appel, mais a déclaré qu'il n'y avait pas conspiration ni entente. Ce qui, par rapport à tous ceux qui ont théorisé la planification, crée problème, puisque si le cerveau n'est pas condamné au titre de l'entente ou de la conspiration, il y a un vrai problème. Bon, alors ça, on ne va pas le débattre, c'est pas que technique, hein, c'est un enjeu important, mais enfin, je le souligne. Hein. Bon, ce que cela signifie, c'est que les résultats du tribunal ne sont pas à la hauteur des attentes qui ont été placées, mais alors, ces attentes ne sont pas forcément les bonnes. Au sens où ce que beaucoup voulaient, c'était un tribunal type Nuremberg, où on juge vite, fort, et on en termine. Ça n'a pas été l'hypothèse qui a été retenue. Depuis lors, ce tribunal a été mis sous pression, pression politique internationale, pression politique des actuelles autorités rwandaises, soit pour condamner très vite, soit pour ne pas condamner, et surtout obtenir qu'une partie de ceux qui étaient susceptibles d'être poursuivis ne le soient pas. Donc à l'heure actuelle, tout le monde estime que le bilan est des plus mitigés. Alors, à titre personnel, je dirais que c'est vrai, que c'est indéniable, cette mission n'a pas été achevée et que les procureurs n'ont pas été jusqu'au bout du mandat qui leur a été imparti. Et si je le dis, c'est parce que le tribunal pénal était la seule instance internationale sur laquelle, normalement, il n'y avait pas prise à l'accusation de culpabilité ou de démission face au génocide. Aucun autre pays du Conseil de sécurité ne peut le dire. En créant le tribunal pénal n'avait de dette vis-à-vis de personne. Il avait des procureurs de plein droit et il avait les moyens, il pouvait se donner les moyens de juger l'ensemble du dossier.
Parce que toutes les puissances occidentales ont plié bagage dès les premiers massacres, ont fermé leurs ambassades.
Et voilà, ça a été la fuite, ça a été la débandade. Bon, et c'était la seule instance qui, moralement, avait la possibilité de le faire. Elle ne l'a pas fait. Bon, et aujourd'hui, on se trouve effectivement dans des situations avec des impunis, si j'ose dire, des impunis majeurs, dont beaucoup sont chez nous, dont beaucoup sont dans des pays voisins.
Donc réfugiés en France.
Réfugiés en France. Bon, et cette situation, on est face à des crimes imprescriptibles, on n'a pas d'issue. Qui va les juger? Les passions rwandaises sont telles que personne n'a envie de continuer à suivre des dossiers rwandais. Partout où il y a eu des procès sur le Rwanda, ça a été l'objet de polémiques, de politiciennes la plupart du temps, d'insatisfaction profonde sur les procédures, la fiabilité des témoins, etc. Bon, voilà. Ça reste pour moi un gros problème. Qui va juger pour demain et après-demain? Mais bon, ce n'est pas ma tâche. En tant qu'universitaire, et moi c'est ça que j'ai voulu faire de manière beaucoup plus pratique, parce que ça...
Vous avez voulu apporter votre pierre. Donc.
C'était amener des éléments de vérité. La particularité, c'est que tous ces éléments de vérité ont été déposés chez des juges, parce que j'estime que sur ces terrains-là, on est aussi obligé, nous, de prendre nos responsabilités. Et je dis, si beaucoup d'autres l'avaient fait, on n'aurait certainement pas autant de rumeurs, autant de passions. Donc cette obligation de dépôt, pour moi, c'est un critère d'exigence, de fiabilité. Et maintenant, le débat se déroulera de manière ouverte, mais ce document existe. Et les preuves sont fournies, y compris en Kinyarwanda, sur le site.
Alors, une dernière question, André Guichawa. On a l'impression, à la conclusion de votre livre, qu'il y a une part d'amertume et une part d'espoir, une part d'amertume de voir la justice seulement en partie passer sur cette question du génocide rwandais, et une part d'espoir. Vous dites, la vérité n'est peut-être pas écrite aujourd'hui, elle le sera sans doute demain, si l'on prend quelques précautions, et notamment vous militez pour que soient, entre guillemets, sécurisées les archives du tribunal pénal international sur le Rwanda, que des historiens peut-être demain pourront relire pour établir des éléments de vérité plus solides.
Moi, mon élément d'espoir, il se repose sur deux points. Un qui va vous sembler tout à fait secondaire, mais qui est vital. Le tribunal pénal a réussi à tenir pendant maintenant 15 ans sans que jamais aucun document, aucun transcript du Kinyarwanda vers d'autres langues n'ait été fait et vers le Kinyarwanda. C'est-à-dire que les Rwandais ne disposent pas, alors que 80% du temps de parole a été en Kinyarwanda, on n'a pas de transcript en Kinyarwanda. C'est invraisemblable. Enfin, si on veut que les Rwandais s'y investissent, voilà. Bon, le deuxième élément, oui, j'imagine que on ne peut pas, imaginer que ces archives soient actuellement, ne fassent pas l'objet d'une politique de sécurisation et de diffusion. Et quand je dis sécurisation, bon, les débats sont très vifs depuis 2 ans pour définir la localisation. Je pense qu'il faut que ce soit dans un pays où on puisse se rendre, où on puisse se déplacer, où on puisse débattre. Eh bien, j'estime qu'aujourd'hui, comme les juges d'Arusha l'ont décidé vis-à-vis des accusés, le Rwanda ne remplit pas à l'heure actuelle ces conditions. Je pense qu'il pourra les remplir à l'avenir, mais que en l'état, les archives doivent être dans un pays africain, peut-être, accessibles, mais à mon sens, peut-être pas au Rwanda dans l'immédiat.
André Guichaoua, je vous remercie. Je renvoie tous nos auditeurs à votre livre majeur, Rwanda de la guerre au génocide, les politiques criminelles au Rwanda 1990-1994. C'est publié aux éditions de La Découverte. Je renvoie également au site où l'on peut consulter toutes les pièces que vous avez voulu transmettre, hein, www.rwandadelaguerreaugenocide.com. C'était Mémoire vive, une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous pouvez retrouver Mémoire vive sur le site de Radio RCJ, www.radiorcj.info, sur le site de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, www.fondationshoah.org, et enfin sur le site de l'émission, www.mémoirevive.net.